RFI, 7h30, à Paris, 6h30, en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit, le Soudan et le Sénégal à la une de l'actualité africaine.
Le Soudan pour une série exceptionnelle de reportages aujourd'hui et pour plusieurs jours d'ailleurs. Notre envoyé spécial est rentré de Khartoum. Une capitale sous les bombes depuis plus d'un an et demi, la guerre aveugle de deux généraux, les civils qui fuient par millions, les morts innombrables enterrés là où la place le permet. Le Sénégal, ce sont les préparatifs des commémorations de Tiaroy, massacre sur ordre d'officiers français il y a 80 ans, contre des soldats sénégalais qui avaient osé réclamer leur solde, podcast d'enquête en ligne dès aujourd'hui. 25 novembre, journée pour l'élimination des violences fondées sur le genre. On reste justement au Sénégal avec ses juristes, El Mani, le droit et la loi pour porter assistance aux victimes. Nous sommes en Guinée, où le Premier ministre de Transition lance une vaste opération de recensement.
Et à Busan, pour d'ultimes négociations plastiques.
En Corée du Sud, le monde va-t-il vers un traité contraignant pour freiner cette folle pollution ? Le consensus autour de la question semble se fissurer.
Le Sénégal se prépare à une journée de commémoration dimanche prochain, le 1er décembre.
Cela fera 80 ans que des tirailleurs, de retour au Sénégal, après avoir combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été abattus sur ordre d'officiers français. RFI mène l'enquête. Un nouvel épisode de notre podcast Enquêtes africaines sort ce lundi. Charlie Dupiot y donne une voix aux oubliés. Elle ravive aussi la mémoire collective autour de ce massacre de Tiaroy. Vous y entendrez notamment la parole de François Hollande, l'ancien président de la République française. Il y a 10 ans, il parlait d'une répression sanglante. Et en 2024, il va même un peu plus loin.
C'est une répression sanglante parce que il y a un acte qui est celui d'une revendication légitime d'ailleurs des tirailleurs sénégalais qui demandent d'avoir le versement de leur solde. La manifestation, elle dégénère et il y a une répression qui est sanglante. En fait, oui, c'est un massacre puisque ce n'est pas simplement une répression comme on en connaît dans des manifestations qui débordent. Là, il s'agit d'un massacre à la mitrailleuse. Les mots doivent être mis là où ils sont nécessaires et là où ils correspondent à une réalité, c'est-à-dire il y a eu un massacre à Tiaroy.
Mais à ce moment-là, vous n'utilisez pas ces mots-là.
C'est déjà beaucoup, hein, répression sanglante. Ce n'est pas un ordre qui a été donné forcément en haut lieu, mais les chefs militaires sur place, ceux qui ont donné l'ordre, ou en tout cas, ont commis l'irréparable.
François Hollande, extrait du podcast Tiaroy, les tirailleurs sacrifiés, signé de Charlie Dupiot et de Romain Dubrac. 4 épisodes à retrouver dès aujourd'hui sur notre site RFI.fr, notre application Pure Radio également. Le 5e et dernier épisode sera disponible le 6 décembre après les commémorations des 80 ans organisées au Sénégal. On reste dans le pays de la Teranga d'ailleurs pour illustrer la date du jour, le 25 novembre, journée pour l'élimination des violences fondées sur le genre. Se battre pour que le simple fait d'être une femme ne vous condamne pas aux agressions en tout genre. Ça fait 50 ans que les femmes juristes du Sénégal ont pris ce combat à bras le corps. Leur association offre une assistance juridique à celles qui sont victimes de violences ou d'injustices. Depuis 15 ans grâce à un numéro vert, le 800-805-805, et même avec 8 boutiques de droit. Ce sont des bureaux bien physiques dont le premier d'entre eux a été ouvert dans le quartier de la Médina à Dakar. Léa-Lisa Westerhoff.
Bonjour, salam alaikum.
Au bout du fil, Maïmouna Ndiaye, voilà 4 ans que cette juriste de formation répond au numéro gratuit de l'association.
Boutique de droit de Médina. La plupart, c'est des violences conjugales, relativement physiques, morales, parfois même économiques. Par exemple, une femme est battue par son mari au réveil, tout ce qu'elle peut faire, c'est appeler sur le numéro vert. Demander conseil.
Depuis la création de cette ligne en 2010, les dénonciations sont en hausse. Mais pour la coordonnatrice de cette boutique de droit dans la Médina, le verrou du tabou reste très fort. Biti Lokofaï.
Certes, les femmes maintenant viennent vers nous, mais quand on va dans les populations, on se rend compte qu'il y a moins de dénonciations par rapport à ce qu'elles ont vécu. La domination de l'homme, mais également la société sénégalaise a fait que les femmes ont le droit de subir, mais pas de dénoncer. Ce qui fait qu'on subit beaucoup plus de violences, de stigmatisation également de la part des hommes.
Associée à une méconnaissance de leurs droits et souvent dépendante financièrement, cette femme qui a reçu une assistance juridique pour divorcer n'a qu'un conseil.
Donc le juge a délibéré.
Quand les conjoints abusent parfois de leur position de mari pour les dépouiller entre guillemets de ce dont elles ont besoin, de venir ici. Parce que quand vous connaissez vos droits, vous êtes en position de vous défendre.
Dans tout le pays, les 8 boutiques de droit offrent une assistance juridique et psychologique gratuite. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Premier ministre de transition en Guinée lance une étape cruciale pour la fin de la transition.
Le recensement administratif à vocation d'état civil, soit dit autrement, le RAVEC. Bahouri a lancé lui-même ses premières opérations à Matoto, la plus grande commune de Conakry. Ce recensement doit servir de base à la constitution d'un fichier électoral, qui sera lui-même la base d'un référendum constitutionnel. Un scrutin qui était prévu initialement d'ici la fin de cette année 2024, soit dans moins de 6 semaines. Sidi Yansané.
Ce n'est pas une opération banale, c'est une opération centrale qui va changer fondamentalement la gouvernance en Guinée, promet Bahouri. Le Premier ministre soutient que ce recensement permettra notamment à l'administration de mieux cibler la politique sociale. Ce recensement, c'est surtout l'une des 10 étapes du chronogramme de la transition et la plus longue. Si le gouvernement entretient le flou sur le calendrier, il est peu probable que le référendum puisse se tenir d'ici la fin 2024, car après le recensement, il faudra encore confectionner le fichier électoral. Les autorités de transition n'ont cessé de répéter que ce recensement est indispensable, car selon elles, l'ancien fichier est à l'origine de la crise post-électorale de 2020. Les partis politiques regroupés au sein des Forces vives ont plusieurs fois dit être opposés à ce recensement. Ils réclament des élections au plus tôt, sur la base d'un toilettage de l'ancien fichier électoral. Une opération qui, selon eux, ne prendrait que quelques mois et permettrait de mettre rapidement fin à la transition.
À Conakry et sur RFI, il est 6h36.
L'un des très rares chiffres à peu près fiables sur la guerre au Soudan témoigne à lui seul de la violence inouïe des combats. 11 millions de personnes ont dû fuir leur domicile depuis que le conflit a éclaté le 15 avril 2023.
Les camps de deux généraux, Abdel Fattah Bouhan et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, se livrent une lutte à mort pour le contrôle du pays depuis cette date. Les organisations humanitaires ont toutes les peines du monde à travailler. Quant aux journalistes, il est quasiment impossible pour eux de se rendre sur place. L'envoyé spécial de RFI a pu, malgré tout, passer quelques jours dans le pays pour raconter le quotidien de cette guerre à laquelle on donne donc une très large place aujourd'hui sur nos antennes. L'un des aspects les plus triviaux de ce conflit, c'est le nombre invraisemblable de morts au quotidien. Les cimetières de Khartoum sont pleins, les fossoyeurs creusent là où ils trouvent de la place. Reportage Elliot Brachet.
Dans le crépuscule, des hommes armés de pioches creusent des tombes. Oussama est venu enterrer son voisin, un menuisier tué ce matin dans un quartier résidentiel, cible des mortiers des forces de soutien rapide.
Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Au moins 7 obus sont tombés. Des enfants et des femmes ont été blessés. Mon voisin était en train de dormir sur un lit, l'obus lui est tombé dessus. Le lit était pulvérisé et son corps démembré. On a dû le ramasser morceau par morceau.
Les funérailles s'enchaînent. Le doyen des fossoyeurs, Abedine Dirma, ne les compte plus.
On se retrouve à l'extérieur du cimetière. À l'intérieur, il n'y a plus de place. Alors on est venu creuser là, sur ce terrain vague. Ici, les jeunes venaient jouer au foot. Maintenant, il est couvert de tombes. Ces derniers jours, on enterre de plus en plus de morts tués par des tirs d'artillerie. Aujourd'hui, on creuse depuis la prière du matin. C'est tous les jours comme ça. On fait entre 15, 20, 30 enterrements quotidiens. On ne dort plus, de jour comme de nuit.
À cause des combats qui compliquent les déplacements, la plupart des morts ne passent ni à l'hôpital, ni à la morgue.
Quand il y a des batailles, des combats, les morts sont enterrés là où ils ont été tués. Les gens creusent à la va-vite pour ne pas que les cadavres pourrissent et répandent des maladies. Il y en a des tonnes, c'est impossible de compter. Les places, les maisons sont remplies de corps.
À l'extérieur du cimetière, d'autres familles attendent leur tour. Au loin, les combats font rage pour le contrôle de la capitale. Elliot Brachet, Khartoum, RFI.
Et ce matin aussi sur nos ondes, la parole d'une Soudanaise qui a accepté de se confier sur les viols qu'elle a subis, cette arme de destruction massive employée systématiquement depuis le début de la guerre. J'ajoute enfin qu'on retrouve Elliot Brachet de retour de Khartoum en direct dans notre prochain journal, dans une vingtaine de minutes. Une nouvelle sortie très politique en République démocratique du Congo, celle de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, hier à l'occasion des journées diocésaines des jeunes. Le cardinal s'en est vertement pris au projet de révision constitutionnelle porté par le président Félix Tshisekedi. Projet inopportun à ses yeux et qui ne correspond en rien aux urgences ni aux besoins des populations.
Comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie et même dépenser de l'argent à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner du travail à la fin de nos études, qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage et à Kinshasa? Tout ce temps qu'on perd, cette énergie autour des changements constitutionnels n'est qu'une distraction. Ne vous laissez donc pas tromper, ne cédez pas aux fausses promesses, ni aux marchands des illusions.
Fridolin en bongo, propos recueillis par notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégois.
En Corée du Sud, la dernière chance d'un traité contre le plastique.
Oui, la ville de Busan accueille la quasi-totalité du reste du monde pour le dernier round de plus de 2 ans de négociations avec, à l'horizon, peut-être un traité international contraignant pour limiter la pollution plastique. Le monde en produit 460 millions de tonnes chaque année. Alors la piste la plus intéressante ne serait-elle pas d'abord de réduire ce chiffre fou? Le consensus sur le sujet semble se fragiliser, Simon Rosé.
À l'image des discussions qui viennent de s'achever lors de la COP29 sur le climat, les négociations qui s'ouvrent à Busan s'annoncent compliquées et à l'issue incertaine, tant les positions des 176 pays présents apparaissent opposées. Il y a les tenants d'une approche ambitieuse, une vaste majorité des États africains et européens. Pour eux, on n'arrivera à rien si on ne ferme pas le robinet en limitant la production toujours plus importante de plastique. Un avis que les États-Unis avaient fini par adopter avant de reculer à la suite de l'élection de Donald Trump. Le pays, premier producteur mondial de déchets plastiques, ne voit plus comment cette position pourrait permettre l'obtention d'un accord. Car un autre bloc de pays ne veut pas entendre parler d'une telle restriction de la production. Les géants pétroliers du Golfe, quelques producteurs africains comme l'Algérie, mais également la Russie, voient en effet dans le plastique un débouché pour leur industrie pétrochimique, attaquée à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce bloc met ainsi en avant le seul recyclage pour mettre fin à la pollution, alors qu'aujourd'hui seuls 9% des plastiques sont réutilisés. Ce sont 2 ans de négociations qui doivent trouver une conclusion cette semaine, mais sans aucune garantie de succès.
Simon Rosé, et une illustration immédiate de l'une des conséquences délétères de cette marée de plastique. En République démocratique du Congo, les déchets jetés dans les caniveaux de Bukavu finissent leur course dans le lac Kivu et jusqu'au barrage de Ruzizi 2 érigé sur la rivière du même nom. Ces déchets s'amoncellent, ils bloquent les turbines, ils endommagent les machines. Conséquence, le barrage perd peu à peu de sa capacité de production. Lui qui pourtant est censé éclairer la province du Sud Kivu et du Nord Kivu et même une partie du Rwanda et du Burundi. Reportage William Bassimike.
Dans une pirogue, Biumanine Mubalama, employé de nettoyage du barrage Ruzizi 2, circule sous le barrage pour ramasser les bouteilles, sachets et autres assiettes en plastique.
C'est étonnant de constater que les habitants de Bukavu, comme ceux de Goma, jettent leurs déchets dans le lac Kivu et qu'ensuite ils se plaignent de ne pas avoir assez d'électricité. Pourtant, ils sont à la base du problème.
À la SNEL, on explique que les déchets plastiques obstruent l'arrivée d'eau. L'ingénieur Christian Sanvoura est le chargé du bureau technique à la centrale hydroélectrique. L'impact du plastique sur la production du courant est un problème important.
N'ayant plus d'eau, les machines ne savent plus être turbinées à plein régime et nous sommes obligés d'arrêter pratiquement la production pour dégager ces déchets. Et cela fait que nous perdons en rendement et même en production. Donc nous avons une capacité de 29 mégawatts, mais nous sommes obligés de produire en moyenne autour de 20 mégawatts.
Pour la SNEL Sud Kivu, il est essentiel que les populations prennent conscience de l'enjeu des déchets et qu'un engagement politique soit mis en place pour réduire l'importation des bouteilles en plastique. William Bassimike, Bukavu, RFI.
À Bukavu, il est 8h44.
Et merci Edouard Dupénois, à tout à l'heure.